environnement et de santé au travail.
Tout à fait. Alors déjà, je commencerai parce que pour moi, c'est une toute première, une chronique qui démarre. Donc, je précise d'où je viens. Donc, c'est un service de santé au travail. Donc, il en existe un petit peu partout, à Valence, Bourg-les-Valences, l'Ermitage, etc., privé ou public d'ailleurs. Et pendant longtemps, les gens, quand on parle de santé au travail, on pense d'abord qu'aux médecins du travail. Or, maintenant, il n'y a pas qu'eux qui sont compétents sur ces questions-là. De plus en plus, il y a déjà des secrétaires, pas mal, qui aident à faire fonctionner ces services. Il y a des infirmières de santé au travail, il y a des ergonomes parfois, il y a des psychologues du travail et des techniciens ou ingénieurs préventeurs comme moi. Donc, alors, je me suis demandé déjà pourquoi parler de ça. Alors, déjà, c'est pour insister, promouvoir la prévention. Alors, je ne sais pas pour les auditeurs, qu'est-ce que ça évoque pour eux, la prévention. On peut penser d'abord au domaine de la sécurité publique, avec ses travailleurs sociaux, mais aussi la police, la justice. Est-ce qu'on fait de la prévention dans ce domaine-là? On peut penser aussi à la santé publique, hein, dernièrement, avec le coronavirus. Est-ce qu'il y a eu de la prévention efficace pour éviter que ça se passe, pour faire en sorte que ça se passe bien? Bon, si on pense au masque, la prévention, là, c'était pas terrible. On peut penser à l'environnement, l'écologie, le réchauffement climatique, le subir, ou faire un peu plus de prévention. Bref, et on arrive au travail, au domaine du travail, où en ce moment, ben, on parle de. Il y a un débat sur les retraites, et je pense qu'il est vain un petit peu, il serait même stupide de penser que de ne parler que d'âge de départ à la retraite sans parler de prévention. Donc, alors, la question que je me suis posée, c'est déjà par quoi commencer, de quoi parler, tellement le sujet il est vaste. Alors, je me suis dit, parce que c'est un souvenir un petit peu particulier pour moi, pourquoi pas parler de télétravail. Alors, en même temps, déjà pour vous, les personnes que j'ai en face de moi, à quoi ça fait penser le télétravail, Camille ou d'autres?
Alors moi, le télétravail, ça me fait penser au confinement, à la chaise de la cuisine qui fait mal au dos et à la connexion qui n'est pas forcément
tout à fait
au top.
Oui, c'est ça. Donc, alors le télétravail, déjà sous ce terme-là, c'est pas forcément être devant un ordinateur, mais maintenant, il y a des outils informatiques, des nouveaux outils qui permettent de collecter des données de l'extérieur. C'est pas forcément se retrouver devant un ordinateur, mais c'est vrai que c'est à ça effectivement que l'on pense. Et pour moi aussi, le souvenir que j'ai, c'est ça. C'est malgré des demandes depuis plusieurs années de pouvoir faire un peu de télétravail, parce que mon travail m'a mené à me déplacer beaucoup et à passer pas mal, à être obligé de revenir au bureau pour rédiger des rapports, etc., alors qu'il y avait sûrement d'autres façons de faire. Et puis, lorsque le coronavirus est arrivé, effectivement, de façon précipitée, avec des outils, des moyens plus ou moins adaptés, on s'est retrouvé un certain nombre devant notre ordinateur à la maison. Alors déjà, il faut quand même rappeler que 27 millions de salariés en France, il y en a 18 millions pour qui ce n'est pas possible, le télétravail. Donc, je suis désolé, on commence par ce thème, mais c'est vrai que ça ne peut pas concerner tout le monde. Il y a plein de gens qui ne pourront pas faire de télétravail. Alors, tant pis ou tant mieux pour eux, on peut en discuter. Alors, je ne sais même pas si dans ces 27 millions, il y a les 5 millions de fonctionnaires. Moi, j'en faisais partie. Mais même dans la fonction publique, il y a énormément de métiers où le télétravail, non, c'est pas possible. Bon, mais tant pis, on commence à parler de ça. Alors, mon souvenir, comme Camille, effectivement, c'est de se retrouver devant son ordi. Alors, si on a moi, j'ai eu la chance d'avoir un directeur dynamique et qui connaissait l'outil informatique, on a eu accès à des outils plutôt efficaces assez rapidement, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, des profs, parce que pour continuer à animer, à suivre des élèves avec un outil qui ne fonctionne pas, je les plains. Beaucoup de gens les ont plaints. Après, on peut avoir... alors moi, j'ai plutôt fait partie des privilégiés, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à la maison sans enfants sur les genoux, si on peut dire, en bas âge, donc ce n'est pas le cas de tout le monde. On peut avoir ou pas un lieu réservé pour ça, où on peut se concentrer, où on peut téléphoner sans bruit. On s'est même retrouvé à deux à la maison, donc avec chacun, chacun qui faisait du télétravail avec son employeur respectif, donc tout le monde non plus n'a pas eu la chance d'avoir ces moyens-là. Effectivement, on a ce que j'ai entendu, ce qui revient souvent, c'est le mal de dos. Donc, c'est vrai que lorsqu'on travaille pendant un certain nombre d'heures devant un ordinateur, il faut prendre le temps de bien s'installer. Et autant, généralement, on a des sièges plutôt adaptés au travail, réglables, s'ils sont réglés, parce que souvent on a des sièges réglables, mais qui ne sont pas réglés. À la maison, on a souvent, ça se limite à une chaise, et donc à qui est ce qu'elle est. On a plus ou moins de place pour mettre des papiers à côté de l'ordinateur. Si on a un ordinateur portable, on peut s'apercevoir assez rapidement que ce n'est pas adapté du tout pour y passer des heures, parce que ça, on a vite rapidement des problèmes de cervicales, surtout si on est assez grand, donc, et qu'on ne peut pas non plus baisser la chaise, etc. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien s'installer, sinon le télétravail sera synonyme de problème de santé au travail. On pourrait aussi parler d'éclairage. Pareil, dans des bureaux bien aménagés, on a généralement un éclairage adapté. À la maison, c'est pas évident. On peut aussi être mal éclairé, mal positionné par rapport à la fenêtre, par rapport à l'éclairage, par rapport à l'éclairage naturel. Donc il y a ça, il y a l'aspect ergonomique. La souris, on peut en avoir une plus ou moins adaptée. Alors maintenant, les modèles évoluent, on a plus ou moins de problèmes de canal carpien, tous ces gens qui se font opérer parce qu'ils ont ils abusent de la souris, des souris qui ne sont pas forcément ergonomiques. L'éclairage, j'en ai parlé. Le siège, le mobilier aussi. On n'a pas forcément un mobilier à la bonne hauteur. Et on en arrive à des choses moins physiques, mais à des choses qui tiennent plus aux conditions de travail. Il y a vraiment la particularité du télétravail qui peut amener à se retrouver assez isolé. Donc moi, de par mon travail de préventeur, de personnes, de professionnels qui étaient amenés à essayer de régler des problèmes, ce qui est remonté souvent, c'était le sentiment d'isolement des salariés avec tout un lien social. Tout à l'heure, les collègues là dans le studio ont beaucoup parlé de lien social, alors que justement le télétravail peut être synonyme de perte de lien social. Donc si, là encore une fois, on a une hiérarchie, on a des collègues qui prennent le temps d'avoir des moyens, des outils adaptés pour ça. On peut avoir des visioconférences suffisamment souvent, des contacts téléphoniques tout simplement, à condition encore une fois d'avoir une qualité de connexion suffisante, parce que là, peut-être que pendant le confinement, vous avez tous vu cette vidéo très, très marrante où on voit un monsieur qui est habillé dans la partie supérieure et qui a ses enfants autour de lui. Enfin, il y a des choses assez marrantes qui ont été faites pendant le confinement sur le télétravail. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, ce lien social, il faut vraiment être vigilant et faire en sorte que ce télétravail ne représente qu'une partie du temps de travail. Il faut absolument qu'il y ait des moments où on peut retrouver du lien social. Par exemple, le moment de la pause café, c'est important. Ce n'est pas uniquement prendre un shoot de caféine, mais c'est vraiment échanger des informations. C'est la pause repas aussi, c'est important, ce que l'on peut perdre aussi avec le télétravail. Donc, les horaires de déconnexion, du coup, on a plus ce temps de trajet entre le domicile et le travail. Donc, chouette, mais en même temps, on se retrouve d'autant plus longtemps devant son outil de travail, devant un ordinateur. Et du coup, on peut ne pas voir le temps passer. Et ce temps de déconnexion, il s'étiole et on se retrouve à faire des journées de 8 heures, 10 heures. Et on ne s'aperçoit même pas qu'on a fait que ça, quoi. On n'ose pas se déconnecter et dire non aux demandes que l'on a pu avoir. Donc, je ne sais pas si tous ces souvenirs, ça évoque des choses plus précises pour vous. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu aussi la réaction des employeurs qui peuvent être contents de ça, parce que tout simplement, ils ont à financer moins de coûts de carburant pour faire fonctionner des véhicules de service, de fonction. En tant que préventeur aussi, il y a un effet positif. Je pense que c'est d'ailleurs peut-être le seul qui est vraiment sur lequel on ne peut pas dire, qui est flagrant, c'est qu'on diminue le risque routier. Aujourd'hui, si je vous demande, à votre avis, quelle est la première cause d'accident mortel au travail ? Quelle est la cause ? Pourquoi on se tue au travail ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se tuer au travail ?
Les accidents de trajet.
Alors, les accidents de la route en général. Alors, il y a en partie effectivement les accidents de trajet, mais aussi les accidents en fonction. C'est-à-dire le commercial qui a une organisation pas forcément adaptée, qui est obligé de se dépêcher pour ne pas arriver en retard à son rendez-vous. Et ça compte effectivement aussi les accidents de trajet. Alors que pour d'autres, ça va être, je sais pas moi, les chutes de hauteur depuis un toit. Mais non, effectivement, la première cause d'accident mortel au travail, c'est le risque routier, c'est les accidents de la route. Alors, pas forcément en voiture d'ailleurs, mais il y a aussi des gens qui prennent la moto, des scooters. En région parisienne, beaucoup, beaucoup vélo, voilà. Donc, alors, effectivement, du coup, le télétravail, c'est intéressant pour ça. On diminue le risque routier. Après, les autres avantages dont on entend parler, apparemment, avec un petit peu de recul maintenant, c'est beaucoup moins flagrant. Alors, les employeurs seront contents parce qu'ils ne vont pas être obligés d'aménager autant de bureaux, de surfaces de bureaux permanents pour des salariés. De plus en plus, on voit s'installer des espaces de travail partagés pour des salariés d'ailleurs qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Bon, il y a des communes d'ailleurs qui investissent pour ce genre d'espace, pourquoi pas. Mais là, encore une fois, pas forcément au profit du lien social. En étant un petit peu cynique, pour un employeur, ça peut être une aubaine de voir moins de demandes collectives à gérer sur les conditions de travail, parce que chacun se retrouve un peu isolé et ce n'est pas évident tout seul de se faire entendre. Alors, en disant ça, on peut dire, c'est vrai, tout seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Généralement. Donc voilà, les demandes collectives, il peut y en avoir moins et se dissoudre ce lien social, ça peut être intéressant pour un employeur qui n'a pas compris que qualité de vie au travail, ça doit aussi améliorer la qualité du travail. Moi, bon, avec l'expérience, j'en suis convaincu, mais pour pas mal d'employeurs, travailler sur les conditions de travail, c'est un peu du confort superflu, ça n'a pas forcément un lien avec la qualité du travail. Et aussi, sur quoi il faut être vigilant, c'est j'aborderai ça dans une chronique suivante, c'est l'entretien physique. Donc moi, je me suis retrouvé parfois un peu surpris, j'ose le dire, en pyjama, encore déjà au travail, devant l'écran. S'il n'y a pas de visioconférence, on se dit, on va s'habiller plus tard.
Oui, et puis c'est surtout qu'on peut couper la caméra pour...
Voilà. Alors, heureusement, on n'a pas toujours la caméra, effectivement, en fonction. Mais on peut se dire aussi, ce qu'on ne peut pas faire au boulot, même si des entreprises l'organisent, on peut se faire un petit peu d'entretien physique, surtout en période de confinement. Ça en était en manque parfois de faire du vélo, de la marche à l'extérieur avec ces fichus périmètres là qu'il fallait respecter. Bon, on se prend un quart d'heure pour faire des abdos un petit peu, de se bouger pour limiter le mal de dos aussi. Ouais, voilà, tout simplement. Voilà, alors, et j'oublie parce que j'ai à côté de moi une personne qui a sûrement entendu parler de ces problèmes-là. Quand on travaille à la maison, il faut chauffer davantage, plus longtemps, alors qu'à la limite, en partant de chez soi, on baisse le thermostat et puis on le remet plus tard en revenant. L'électricité, on l'a fait fonctionner plus longtemps. Et qui c'est qui paye tout ça? Donc ça, généralement, ça fait des débats intéressants entre employeurs et salariés. Et aujourd'hui, je crains que même si un texte est passé, mais surtout avec des recommandations, enfin, il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire pour que le salarié n'y perde pas trop, justement, par ses coûts supérieurs d'énergie, tout simplement. Donc, en été ou en hiver, on verra d'ailleurs cet hiver ce que signifie 19 degrés quand il faut travailler à la maison. Voilà, le télétravail, c'était le premier sujet que je lance, et pour les prochaines chroniques, il y a bien d'autres sujets à aborder.
Merci Patrick, avec ta chronique, ça nous a rappelé plein de souvenirs et c'était hyper pertinent, notamment les coûts de l'énergie qui vont être un petit peu élevés, je pense, cet hiver, et du coup les coûts qui vont être répercutés sur les factures des employés et non pas pour l'employeur.
Tout à fait. Alors, pour la suite, effectivement, j'ai mis sur le côté un certain nombre de sujets que je peux développer un petit peu. Alors, quand on parle de prévention, il faut expliquer qu'il y a la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Alors, ça évoque peut-être pas grand-chose pour les auditeurs, quoique on a beaucoup parlé de vaccins, on parle des hôpitaux, on parle des soins. Dans le domaine du travail, trop souvent, on parle d'abord des équipements de protection individuelle. Donc ça, c'est bien, il vaut mieux qu'il y en ait, mais ce n'est pas de la prévention primaire, c'est-à-dire s'intéresser aux causes. Et ça, il y a de quoi dire sur le sujet. Ce que l'on a évoqué tout à l'heure un petit peu, c'est aussi le mal de dos. Donc ça permettra de développer la question de l'entretien physique au travail, la sédentarité, le fait que des personnes ne sont pas amenées à avoir une activité très physique ou sont devant leur écran. Et donc, peuvent faire aujourd'hui le manque d'entretien physique, alors dans le cadre du travail ou en dehors. Ce que je développerai aussi une prochaine fois, c'est les risques psychosociaux. Alors, plutôt dire de façon un peu moins négative le bien-être ou le mal-être au travail, trop souvent confondu avec le burn-out. Le burn-out, c'est quelque chose de très particulier, heureusement très rare. Par contre, les raisons de ne pas être très heureux au travail, il y en a beaucoup plus et beaucoup plus souvent, hélas. Je parlerai aussi d'addiction au travail. On a tendance à... et de produits chimiques. Je sais que Karina était sensible sur le sujet, les cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, enfin bref, tous les produits chimiques que l'on peut utiliser beaucoup dans certains métiers, auraient tendance à faire passer par en dessous toutes les addictions qui existent toujours, notamment le tabac. Le tabac qui continue, je souris, mais non, c'est pas du tout drôle, ça continue à faire à peu près 75 000 morts par an. Alors que ben, les CMR, les produits chimiques, heureusement, ne font pas autant de morts. On pourra aussi parler de conception sur les lieux de travail, avec notamment le rôle essentiel des architectes, mais très souvent, justement, les problèmes de mauvaise conception des lieux de travail, avec toutes les répercussions ensuite sur les petites mains qui vont être chargées de la maintenance et du nettoyage, de l'entretien des lieux de travail. Donc voilà, ce sont des sujets que l'on pourra... développer avec là aussi, il y a des choses nouvelles qui arrivent, des nouvelles technologies comme les exosquelettes qui peuvent se mettre en place dans certains métiers qui sont censés régler les problèmes de mal de dos ou d'usure articulaire, les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Enfin bref, le sujet de santé au travail ne manque pas. J'aborderai enfin aussi, peut-être même avant, en premier, l'organisation de tout ça. Qui fait quoi en France et où en est un petit peu la réglementation, vers qui se tourner, avec notamment les questions du dialogue social. Voilà, j'allais oublier ça. Essentiel, aujourd'hui, dans la fonction publique, mais ailleurs, il y a des élections qui sont en train de s'organiser ou qui se sont déjà organisées pour faire en sorte que les employeurs et les salariés puissent se parler et se comprendre, si possible, avec une formation pour tout le monde, pour parler de conditions de travail. Donc le dialogue social, il est essentiel, et faire en sorte que des revendications puissent déboucher sur des débats utiles et sur des améliorations des conditions de travail, donc des améliorations sur la qualité de ce travail. Voilà, donc aux prochaines fois, et j'espère que je vous ai donné envie que l'on se retrouve.
Merci beaucoup Patrick.
Merci.
Et à la prochaine pour une prochaine chronique.
Tout à fait. Dans une semaine, un mois, on va en rediscuter.
On en rediscutera, mais moi.